Midi 40, 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, c'est 5 degrés sur Québec actuellement. Cette nuit, on parle de température à la baisse pour atteindre moins 1. Même un genre de moins 7 aussi, là, vers les entours de 4 à 5 heures du matin.
C'est chaud,
pour ce qui est de demain, un ciel dégagé avec un maximum de plus 3 degrés. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 7. Jeudi, journée à surveiller parce qu'on parle d'une belle journée à 15 degrés. Donc, ça va fondre, cette belle neige-là. Pluie intermittente ou neige pour ce qui est de vendredi, maximum de plus 1. Samedi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 6. Et pour terminer la semaine, dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0. C'est le gars de la Fédération canadienne des contribuables à qui on aime bien jaser à chaque semaine, Nicolas Gagnon. Salut!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Mark Carney, finalement, a bel et bien suspendu la taxe carbone. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le Québec? Est-ce que quand on suspend la taxe carbone pour le contribuable, est-ce que les entreprises vont devoir continuer de payer cette fameuse taxe carbone-là? Est-ce que les entreprises la refileront à leurs clients? Qu'en penses-tu?
Ben ça, c'est une très bonne question. En premier lieu, il faudrait dire que la suspension de la taxe carbone fédérale, malheureusement, ça va pas toucher le Québec, ça. On savait déjà que la taxe carbone fédérale s'appliquait pas au Québec, donc cette suspension va pas nous affecter ne serait-ce que directement. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du 1er avril prochain, si la tendance se maintient, dans toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec, le prix de l'essence va baisser de 17,6 cents. Donc, c'est à peu près ce que ça représente présentement, la taxe carbone sur chaque litre d'essence qui est consommé par les Canadiens d'un bout à l'autre. Et veut pas, oui, c'est vrai que la taxe carbone, d'une certaine manière, ça avait un impact sur les produits et services qui sont qui sont produits dans le reste du Canada et qui sont consommés au Québec. Donc, veut pas, ça a un petit peu un rôle d'inflation comme tel. Mais à la fin de la journée, c'est pas nous qui allons profiter de cette baisse qui va être plus intéressante pour le reste du Canada. Par contre, c'est une suspension, c'est pas une abolition. Donc, il y a deux choses à noter là-dessus. La première, c'est que pour que la taxe carbone soit définitivement enterrée, faut rouvrir le Parlement canadien. C'est pas mal la seule manière d'abolir un projet de loi comme tel. Et dans ce cas-ci, ça n'a pas été encore fait. Donc, c'est simplement suspendu. Et il y a aussi une taxe carbone qui, comme tu l'as mentionné, est refilée aux entreprises à travers le pays. Et il y a des fortes chances que Mark Carney va tenter de compenser l'abolition de la taxe carbone aux consommateurs pour plutôt la refiler aux entreprises qui vont la refiler ensuite aux consommateurs par la porte en arrière, un peu à l'instar du Québec. Sauf que bon, c'est pas encore fait, on a hâte de voir où est-ce que ça va aller tout ça, mais à la fin de la journée, le Québec, dès le 1er avril, sera la dernière province canadienne avec un prix sur le carbone qui est refilé aux consommateurs, pour la simple et unique raison que non seulement la taxe carbone fédérale va bientôt disparaître, mais en plus, la Colombie-Britannique, qui est la seule autre province à avoir sa propre taxe carbone, qui était aussi la première à en déployer une, le premier ministre David Eby, qui est un néo-démocrate, a annoncé qu'elle allait passer un projet de loi pour abolir sa taxe carbone également. Donc, il reste essentiellement juste le Québec présentement dans l'équation. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir d'avril prochain, on va être pas mal les seuls à se facturer une taxe carbone qui n'a pas vraiment d'impact sur l'environnement, mais qui a clairement un impact, pas sur le portefeuille. À titre de rappel, au Québec, on n'a pas une taxe carbone, ou du moins, on ne l'appelle pas comme ça, on l'appelle le système de plafonnement, ou on appelle ça le marché de carbone, et ça coûte environ 11,7 cents par litre à chaque fois que vous allez dans une station de service. Donc, c'est un coût réel qui est assumé, et qu'on va continuer à assumer pour encore longtemps, tant que Legault n'a pas pris position là-dessus.
Ah, c'est clair qu'il va garder ça en place, là. Ça rapporte de l'argent au gouvernement. Donc, en Amérique du Nord, il resterait la Californie, puis nous autres, au Québec, avec cette fameuse taxe-là?
Essentiellement, oui, on est pas mal les deux provinces, ou du moins les deux juridictions qui sont liées par le marché de carbone. Donc, c'est sûr que pour l'instant, ça semblait être avantageux pour le Québec de rester dans ce régime-là, parce que le reste du Canada avait quand même un régime qui était plus coûteux. C'est-à-dire que la taxe carbone fédérale, on le mentionne pas assez souvent, mais elle coûtait plus cher que la taxe carbone qu'on paye au Québec. À titre de comparatif, au fédéral, le congé de taxe, du moins ce que ça représente par litre d'essence quand ça va être aboli, c'est 17 cents environ. Au Québec, c'est 11 cents. Donc, on voit qu'il y a quand même une bonne différence. Mais là, vu que le reste du Canada aura plus sa taxe carbone, ben là, on se demande à quoi ça sert au Québec de garder la nôtre si c'est pas de se pénaliser davantage pendant que les autres ont un répit. Et donc, oui, peut-être de sortir du marché de carbone, ça serait une bonne idée. C'est une des raisons pour laquelle on interpelle le gouvernement depuis en fin de semaine, et on va continuer à le faire pour les prochaines semaines, les prochains mois, pour que Legault nous sorte de ce marché de carbone-là. Et finalement, oui, il n'y a pas vraiment intérêt à être les seuls à se pénaliser dans notre coin. Donc, vaut mieux en sortir maintenant. Il faut rappeler que ça fait depuis 2013 qu'on est dans ce marché de carbone-là, puis il est temps d'en sortir.
On parle du budget du Québec 2025-2026. Selon la Fédération canadienne des contribuables, l'Institut du Québec est carrément dans le champ.
Ben oui. Je veux dire, respectueusement, je pense à un institut qui est crédible, mais les solutions qu'ils ont apportées par rapport à la question du budget au Québec, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, on n'est pas du tout d'accord avec l'approche principale qui consiste à équilibrer les finances publiques avec des revenus supplémentaires. Parce que c'est à peu près ça qu'ils proposaient de leur côté la semaine dernière dans un communiqué qu'ils ont fait parvenir là aux médias, où est-ce que l'Institut du Québec dit carrément que le gouvernement devrait envisager d'augmenter la TVQ de 0,5% pour être en mesure d'aller chercher des revenus supplémentaires et équilibrer son budget. Parce qu'on le sait que, depuis l'année dernière, du moins, on a tout un déficit quand même record, là, qu'on essaie de trouver les moyens de s'en débarrasser. Et pour l'instant, le gouvernement du Québec n'a pas encore préparé de plan. Puis même que la semaine prochaine, on s'attend à un budget encore plus déséquilibré que ce qu'on avait eu l'année dernière. Donc, ça démontre que le gouvernement du Québec va s'endetter pour encore un bon moment, sans aucun plan pour y mettre fin. Et le plan de l'Institut Québec, c'est de dire, considérant qu'on a discuté à ralentir les dépenses, vaut mieux augmenter les revenus. Donc, pénaliser les contribuables davantage, ça semble être la solution préconisée. Ce qu'on dénonce de notre côté, la réalité, c'est que c'est pas juste ralentir les dépenses qu'il faut faire. Il faut couper, puis il faut surtout pas se tourner davantage vers les contribuables pour aller chercher des revenus supplémentaires, puis espérer dans le fond, leur faire payer pour la mauvaise gestion des gouvernements précédents.
Tu vois-tu un peu le même crash financier qu'on a vu dans les dernières années arriver? T'as-tu l'impression qu'ils apprennent de leurs erreurs ou pas du tout?
J'ai pas tout à fait l'impression que, du moins pour l'instant, on n'a pas l'impression que le gouvernement du Québec va vraiment nous déposer un plan la semaine prochaine. En ce moment, la rumeur qu'on a à tous les niveaux de la colline parlementaire, c'est qu'on va avoir non seulement un budget très déséquilibré, ni aucun plan pour vraiment y mettre fin. Il faut rappeler aussi de toute manière que l'année prochaine, c'est quand même une année électorale. Donc, peu importe ce qui va se décider cette année en termes de plan, ça va sûrement changer avec les promesses électorales qui seront faites l'année prochaine. Mais par-dessus le marché, c'est le fait qu'on voit à quel point la dette du Québec va continuer à nous coûter de plus en plus cher avec le temps et que le gouvernement du Québec ne prend pas ça au sérieux. Et on va utiliser même la guerre tarifaire dans laquelle on est présentement pour sortir encore plus d'argent des coffres ou plutôt creuser davantage de la dette pour lancer de l'argent dans toutes les directions comme on l'a fait durant la COVID et pas être en mesure d'avoir vraiment avoir un plan pour renforcer l'économie maintenant et à long terme et surtout mettre fin à l'endettement chronique. Parce que je tiens à rappeler que cette année seulement, la dette du Québec nous coûte collectivement 10 milliards de dollars. C'est 10 milliards qu'on paye en tant que contribuable avec nos impôts et nos taxes, non pas pour des services ou pour avoir des infrastructures un peu mieux bâties, non, c'est carrément pour payer les créanciers de la dette du Québec. Donc, ça ne va pas nous avantager du tout. L'Institut du Québec, eux, ils proposent qu'on devrait augmenter les revenus, donc essentiellement taxer davantage pour mettre fin à cet endettement. Nous, on propose plutôt l'inverse. Il faut ralentir les dépenses, voire les couper drastiquement, faire un genre de Dodge Québec ou un véritable comité de révision des dépenses gouvernementales et mettre fin à ce tourbillon de dépenses injustifié.
L'Institut du Québec, est-ce que c'est apolitique, ça, ou sont toujours collés sur le gouvernement pour continuer d'avoir des subventions?
Je crois que ils sont quand même une institution indépendante et qui parle essentiellement de finances publiques et d'administration publique. Donc, je les connais pas assez pour savoir qui les finance et comment, mais je pense qu'ils sont associés à des chaires de recherche d'université. Donc, ils doivent avoir quand même une bonne partie de leur financement qui est privé, mais les subventions doivent pas être trop loin non plus. Ceci étant dit, au moins, la réalité, c'est qu'on est d'accord sur le même constat. Autant nous que l'Institut du Québec, on est d'accord que le gouvernement dépense trop et que présentement, c'est une situation insoutenable tant pour les contribuables actuels que futurs. Là où est-ce qu'on n'est pas d'accord, c'est la solution. Eux, ils proposent d'augmenter la TVQ. C'est un peu à l'instar de l'achat en recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Je pense mal prononcer leur nom, mais eux, ils proposent plutôt d'augmenter la taxe sur l'essence. Donc, on voit que, surtout à gauche, mais à droite comme à gauche, on demande des augmentations de contributions. On demande aux contribuables de payer davantage, mais il n'y a personne qui ose réellement demander au gouvernement gouvernement de mettre la hache dans ses programmes, dans ses ministères, réviser ses effectifs, puis d'avoir vraiment un plan pour équilibrer ses finances.
Je regarde le conseil d'administration de l'Institut du Québec. Là. C'est Raymond Bachan qui est à la tête là, de l'Institut du Québec. On se souvient de Raymond Bachan, la finalité comme peuple, c'est pas d'équilibrer le budget, c'est d'être heureux comme peuple.
C'est terrible quand on entend ça.
Mais probablement qu'effectivement, c'est un organisme qui est très, très, très à gauche, là, puis ils veulent piger plus dans nos poches pour en donner peut-être aux gens qui sont un peu plus de leur côté. Et on termine avec un sondage, mon ami, sur la hausse des salaires des députés à la Chambre des communes. Les salaires, pour ce qui est des députés fédéraux, sont extrêmement élevés. Qu'en pensent les Canadiens? Est-ce qu'on devrait hausser leurs salaires?
Non, ben c'est ça, on est un petit peu écœuré de voir qu'à chaque année, les politiciens se versent, surtout à la Chambre des communes, une augmentation de salaire sans passer par un vote, ni même célébrer ça en grande pompe. Donc, ils font ça en catimini, puis on a voulu un peu plus exposer ça cette année. Donc, on a demandé à la firme Léger de faire un sondage, puis demander l'opinion des Canadiens aux quatre coins du pays pour savoir ce qu'ils pensent des augmentations de salaire dont les députés à la Chambre des communes vont bénéficier dès le 1er avril prochain. Et, ben grande surprise, 80% des Canadiens interrogés, en fait, ont dit qu'ils étaient contre cette augmentation de salaire. Quand on retire les incertains ou le on ne sait pas de l'équation, c'est 86% des gens qui ont exprimé une opinion, qui ont carrément dit qu'ils étaient contre l'augmentation des salaires des députés. Ce qui est un bon signe, c'est de voir à quel point les gens ne sont pas prêts à accepter ça de leur côté. Il faut rappeler que c'est la sixième augmentation de salaire dont les députés vont bénéficier le 1er avril prochain si la tendance se maintient, alors qu'ils n'ont quand même pas siégé cette année, pour le rappeler. Mais non seulement c'est la sixième augmentation depuis 2020, mais sur cette période-là, on a eu une pandémie, on a eu une crise inflationniste, on a même une guerre tarifaire présentement. Et jamais un seul moment, un des 338 députés de la Chambre des communes s'est dit ou a dit publiquement, peut-être qu'on ne devrait pas s'en mettre plein les poches pendant que les contribuables traversent des moments difficiles. Et là, ben on est en plus dans une année électorale. Donc, on s'attendrait en plus à ce qu'un peu de gêne de leur part, surtout dans le contexte actuel. Et malheureusement, malgré le fait qu'on a quand même publié ce sondage-là et qu'on a quand même fait beaucoup de bruit, il n'y a aucun des 338 députés qui a pris le temps de ne serait-ce que de refuser son augmentation de salaire ou de même décrier cette situation. Donc, on va continuer de maintenir la pression parce qu'on est quand même le 17 mars et l'augmentation de salaire est prévue le 1er avril prochain. Mais il n'en reste, si jamais vous voyez un député de la Chambre des communes, posez-lui une question sur son augmentation de salaire, ça me ferait très plaisir et je pense que les contribuables aimeraient entendre sa réponse.
Écoute, les députés fédéraux, un simple député fédéral, c'est autour de 190 000 $?
Plus précisément, c'est 203 000 $ en fait, un député à la Chambre des communes. Puis ça, c'est un député qui a aucune... en fait, c'est un député d'arrière-ban. Donc, il n'est pas sur aucun comité parlementaire.
Et puis, un ministre, c'est combien?
J'avais-tu les salaires d'avant moi? Il y a
parce
quelques
que j'ai le salaire pré-pandémique, là, donc ça date de 2020. Un ministre était à 264 000.
OK, un ministre, à partir du 1er avril, va toucher 309 000 $. Donc, c'est le salaire ajusté avec l'augmentation qui est prévue le 1er avril prochain.
Ouais.
De son côté, Mark Carney, le premier ministre, lui, va toucher environ 420 000.
Oui, bien pour un premier ministre du Canada, je trouve que ça a un peu plus de bon sens.
Ouais,
mais d'accord. Pour des simples députés, je trouve que les salaires sont très, 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 très élevés.
Député, parce que ministre, c'est une autre affaire. Mais ouais. Député, il y en a plein qui sont backbenchers en plus, là.
Exact. Tu les entends jamais. Est-ce qu'ils font littéralement là, du travail incroyable dans leur circonscription? Certains, oui. D'autres sont totalement absents. Nicolas Gagnon, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi, cher ami. On se reparle la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, à très bientôt.
Bye-bye, l'excellent Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Voulant en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuables.ca. On fait une courte pause, midi 53, on vient.